voisin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, vivre ou travailler dans un lieu sans adresse, ou le casse-tête de l'adressage des villes en Afrique. Dans les capitales, les plans d'adressage progressent, mais pas partout. Et que dire des adresses dans les villes secondaires ? Les habitants sont-ils réticents, ou les élus locaux peu motivés, ou bien s'agit-il de blocages techniques, financiers ? Faut-il s'inspirer d'expériences, par exemple en Inde ou ailleurs, pour mieux s'orienter dans les villes du continent ? Nous allons en discuter avec Pierre Baillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones, l'AIMF, qui est très mobilisée pour l'adressage en Afrique. D'ailleurs, vous partez, je crois, demain ou après-demain
N'Djamena.
Guy Roger Pambou est le directeur du projet d'adressage pour la capitale économique du Congo-Brazza. Il sera en ligne avec nous dans quelques minutes. Ce sera l'occasion pour vous, les voisins congolais, de réagir si vous vivez dans un quartier qui n'a toujours pas d'adresse à Pointe-Noire. Et puis un chef d'entreprise est également dans le studio. Bonjour Régis Facia.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de Top Chrono, entreprise de transport et post-express qui se développe dans plusieurs pays d'Afrique.
C'est exact.
Vous êtes également vice-président du patronat béninois.
Tout à fait.
Vos bureaux à Cotonou sont à quelle adresse ?
Alors là, ça me posait vraiment une colle. Là, c'est là que j'avoue qu'effectivement, il y a un problème de communication par rapport à l'adressage.
Non, vraiment ?
J'avoue que vous me posez une vraie colle.
Vous n'avez pas l'adresse ?
Je suis désolé, Emmanuel, mais je n'ai pas l'adresse.
Le nom du quartier de vos bureaux ?
Non, le nom du quartier, oui, ça je connais, c'est le quartier. Mais aujourd'hui, avec la mairie de Cotonou, il y a eu un travail qui a été fait. Mais je vous avoue que je ne peux pas vous dire avec exactitude le numéro de
vos bureaux à Cotonou.
C'est dommage. Là, j'avoue que j'ai honte. Là.
Combien d'employés ?
À peu près 150.
Sur place à Cotonou ?
Non, une centaine à Cotonou et puis le reste un peu partout.
Qui n'ont pas l'adresse de leur bureau.
Voilà.
Guillaume Josse est également dans le studio avec nous, directeur général du groupe 8. Bonjour.
Bonjour.
Votre bureau d'études spécialisé dans le développement urbain a mis au point des techniques d'adressage pour des municipalités en Afrique depuis près de 20 ans. Donc vous êtes très souvent sur le continent. Vous nous direz avec quel succès, avec quelles limites aussi, sous le contrôle bien sûr des auditeurs. Et quant à vous les voisins, on attend vos points de vue, vos témoignages, avec ou sans adresse. Il vous suffit d'un numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71 et bien sûr vous continuez de poster sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. Je vous lis quelques messages de voisins perplexes, voire très partagés sur l'utilité d'avoir des adresses dans leur ville. Soumaïla à Bamako nous dit « Les rues portent les noms de grands personnages et chaque porte est numérotée. Pourtant, je trouve qu'il n'est pas du tout facile de se repérer avec tous ces numéros partout. » Issa à Ouagadougou, vous avez le droit de commenter, hein, bien sûr. Nous, on se repère à Ouaga grâce au commerce, école, boîte de nuit. Il suffit en fait de donner le nom de ton quartier et puis de se repérer par rapport à un bâtiment à côté. Non, Dieu merci, pour le sommeil des voisins, il n'y a pas partout des boîtes de nuit. Mais il y a toujours un vendeur, un commerce installé à proximité. Hassan, à Lomé au Togo. En Afrique, on n'a pas besoin d'adresse pour se repérer. Nous vivons en communauté, il suffit de demander un renseignement à quelqu'un pour se retrouver. Pas besoin de l'européanité où chacun vit pour soi. Raphaël, à Lomé, également, au Togo, la majorité des rues n'a pas de nom. Vivement que nos gouvernements réalisent la nécessité d'avoir des villes bien construites et organisées. Vous voyez que les points de vue sont partagés sur l'utilité.
Mais surtout qu'il y a un fil rouge, c'est un problème politique. Et l'adressage, avant d'être une opération d'experts, c'est une opération politique, de gouvernance et de politique.
Et bien justement, on va en parler à la fois des problèmes technologiques, techniques, et puis des freins politiques. Lawali est à Maradi, dans le sud du Niger. Au Niger, l'adressage est fait depuis quelques années, mais avec le temps, les adresses disparaissent. Les panneaux sont-ils lisibles ? Je lance donc ici un appel au maire de la communauté urbaine de Maradi. Voilà, l'appel est lancé de Lawali. Jean-Yves à Port-au-Prince, il nous dit qu'en Haïti, il n'y a pas de service officiel d'adressage. Mmh. N'importe qui peut donc décider de nommer une rue et chacun choisit le numéro de sa maison. Alors évidemment, ça simplifie. Vous confirmez ? Vous nous appelez, les voisins, les voisines. On parle donc de ces villes, de vous, de votre quotidien. Si vous n'avez pas d'adresse, si vous en avez une mais que vous ne la connaissez pas, si vous ne jugez pas cela utile ou si au contraire vous attendez une adresse pour faciliter le commerce et beaucoup d'autres choses. En tout cas, vous avez la parole au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. C'est sur la RFI.
vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons un auditeur qui nous appelle de N'Djamena au Tchad. Bonjour Daniel.
Bonjour Emmanuel Bastide, bonjour à tous les invités.
Nous vous écoutons.
Ouais, concernant le problème d'adresse, j'ai pu énumérer mon commentaire que ici au Tchad, seule adresse qu'on a besoin, c'est le numéro de téléphone. C'est ce qui nous permet souvent de nous retrouver là où on a besoin de s'y rendre.
Oui.
C'est un peu compliqué parce que je vis dans les zones périphériques de la capitale.
Oui.
Et dans ces villes, dans cette périphérie, il n'y a presque pas de rue bien tracée, ni de numéro de porte, ou encore d'autres panneaux qui peuvent nous indiquer là où on a besoin de s'y rendre. Et souvent, il faut avoir quelqu'un pour nous guider, sinon on ne peut pas retrouver le lieu dont on a besoin de venir dedans.
Mmh.
Et souvent, on est obligé parfois de faire perdre du temps à celui dont on a besoin qu'il nous guide pour retrouver le lieu.
Perte de temps, retard parfois pour arriver à son travail. Je crois que c'était votre cas parce que vous êtes enseignant, mais vous n'êtes pas de N'Djamena.
Je ne suis pas de N'Djamena, mais je suis un enseignant à N'Djamena. Et cela m'a beaucoup touché parce qu'il y avait un moment où j'ai perdu un travail à cause des problèmes de repérage.
Ah bon, carrément?
Et je devais répondre à mon premier rendez-vous de travail.
Mmh.
On m'avait donné juste l'adresse du lieu où je devais me rendre dedans.
Oui.
Mais à ma grande surprise, je ne pouvais pas joindre parti de travail où je voulais arriver par le numéro de téléphone.
Oui.
Le temps pour moi de poser des questions et d'échanger plusieurs rues, je suis arrivé avec un grand retard où je ne pouvais plus être accepté. C'était le plus grand problème qui m'a beaucoup touché.
Et donc vous avez perdu votre emploi parce que vous êtes arrivé trop en retard et que vous ne pouviez pas joindre votre interlocuteur avec qui vous aviez rendez-vous. Faute de trouver l'adresse.
Oui, rappelez-vous qu'à N'Djamena, trouver un boulot, ce n'est pas facile. Trouver un travail, il faut au moins se multiplier ou faire de certaines avances. Et comme on m'a appelé, je suis arrivé à un retard, il y avait un nombre de personnes qui avaient besoin de ce travail.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Daniel, édifiant. Hein, vous qui avez perdu un emploi en arrivant en retard, faute de trouver l'adresse du rendez-vous, vous êtes enseignant, vous êtes à N'Djamena. Alors, N'Djamena, vous y rendez dans quelques jours. L'adressage n'est pas total, il y a une partie de
non,
la ville.
En tout cas pour le centre-ville, mais c'est un projet, il faut le dire, qui va être financé par la IMF et l'Union européenne. C'est une volonté.
L'Association des maires francophones et l'Europe.
Et l'Union européenne. Et c'est l'expression de la volonté du maire. S'il n'y a pas de volonté politique, il ne peut pas y avoir d'adressage. L'adressage est avant tout, comme je vous l'ai dit, un projet politique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il mobilise la population pour arriver bien et ses services à une opération d'adressage réussie.
Régis Facia, vous voulez réagir au témoignage de Daniel?
Oui, parce que c'est assez édifiant. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. L'adressage, pour moi, dans mon métier, c'est que le tensiomètre...
De la
poste rapide. Donc j'ai besoin d'adressage pour fonctionner. Et tout à l'heure, ce monsieur a évoqué le fait qu'il ait perdu un emploi parce qu'il n'a pas eu son adresse. Et moi, vous imaginez un peu le nombre de courriers que je perds parce que j'ai du mal, effectivement, à distribuer mon
courrier.
C'est
une de vos plus grosses galères au quotidien?
Je pense que c'est le plus gros problème auquel on est confronté aujourd'hui. Mmh. Et le fait que la mairie, enfin, quand je prends l'exemple du Bénin, par exemple, ait mis en place un système d'adressage, a essayé quand même d'amoindrir la difficulté.
Oui.
Mais le gros problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'on prend une ville comme Cotonou, il y a à peu près 1 500 000 personnes dans la ville de Cotonou qui viennent par jour travailler. Mais le soir, il y a 700 000 personnes. Donc, la plupart de ces personnes retournent dans les agglomérations. Donc, en mettant en place à Cotonou un système d'adressage, on ne résout pas le problème. Parce qu'après, il y a ce qu'on appelle la périphérie de Cotonou. Et c'est là que la population habite. Et tant qu'on n'a pas mis ça
en
place...
En permanence.
Effectivement. Et puis, l'autre problème, c'est l'infrastructure, c'est la mobilité. Alors, si vous arrivez à mettre en place un système d'adressage et qu'on a du mal, effectivement, à aller à ces endroits-là, le problème reste le même.
Guillaume Joss, où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? Est-ce que d'ailleurs, on peut encore poser la question de l'adressage dans les villes africaines, alors que le problème évolue sans cesse? On a l'impression, quand on lit la presse, qu'effectivement, il y a bien eu, ces dernières années, des plans d'adressage, en tout cas dans les capitales africaines.
Oui, la plupart des capitales ont été adressées, comme on dit. Maintenant, il faut distinguer... Alors, les villes secondaires, quasiment pas. Et ça, c'est un vrai problème, parce que ces villes qui étaient toutes petites il y a 30 ans, maintenant, ont parfois 1, voire 2 millions d'habitants. Il faut distinguer deux choses. Il y a l'adressage, c'est-à-dire le fait de faire un plan, tout simplement. D'abord, un plan de la ville, avec toutes les rues, sachant que les villes changent, donc il faut savoir quelle rue on retient. Ensuite, donner des noms, alors c'est un peu compliqué, ou des codes aux rues. Mais une fois qu'on a fait ça, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'adresse ? C'est-à-dire, à quoi ça sert d'avoir une adresse, finalement?
Et encore faut-il que les habitants la connaissent.
Absolument. Alors, d'abord, communiquer. C'est-à-dire, on pourrait imaginer aujourd'hui de partager sur Internet les plans de ville, comme on peut faire dans les villes du Nord, par exemple. Donc, chacun sait.
On continue de ne pas pouvoir se passer de panneaux, donc, de numéros sur les maisons, encore... sur les logements, et de panneaux à poser sur les rues.
En fait, on n'a jamais trouvé mieux comme système aujourd'hui. Partout, parce que un de vos auditeurs parlait de l'européanité, mais c'est la même chose au Japon ou en Amérique latine. Ça veut dire que toutes les portes donnent sur une rue dans les villes. C'est l'intérêt de la chose. Donc c'est assez facile.
Est-ce que le continent africain est un continent en retard sur l'adressage ou pas?
Oui, il est clair qu'il est en retard. Prenons l'exemple de l'Afrique du Nord. Une ville comme Tunis, les décrets d'adressage, c'est 1883 et 1885. Là, on est en train de s'en préoccuper à N'Djamena. La deuxième chose, et j'y reviens, vous allez me dire que je suis têtu, mais s'il n'y a pas la volonté du maire qui mobilise sa population pour le respect et le suivi de ces opérations-là, ce sont des dépenses inutiles. Il faut une administration qui tienne le coup et il faut un maire qui le veuille.
Et qui explique aussi sert l'adressage. Je voudrais qu'on laisse la parole à un auditeur qui cherche à nous joindre. Bonaz est à Amundu, au Tchad, et non pas à N'Djamena, dans une ville de grande importance économique. Bonjour Bonaz.
Oui, bonjour Emmanuel et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes dans le sud du Tchad, à Amundu. Est-ce que vous pouvez nous donner votre adresse?
Moi, je suis à Amundu, sur la rue 60-73, porte 707.
Oui. Parce que vous savez, c'est pas clair comme adresse. Il n'y a que des numéros.
Oui, mais le numéro indique que j'habite au 6e arrondissement, à la rue 73, oui. Et le numéro de porte 777.
D'accord. Tout le monde connaît son adresse à Amundu?
Malheureusement, non. Je confirme ce que le précédent auditeur vient de dire parce que l'adressage de la ville est encore nouveau au Tchad. Mmh. Il a été fait par la Société nationale d'électricité en coordination avec les deux communes, à savoir la commune de Amundu et la commune de N'Djamena. Mmh. L'adressage se fait toujours par la numérotation des rues et des portes. Mais malheureusement, on remarque que les Tchadiens méconnaissent encore le travail d'adressage qui a été fait par les deux institutions. Oui. Ils sont incapables de vous donner, par exemple, le numéro que je viens de vous donner. Je ne sais pas si est-ce que mes voisins le savent. À chaque fois quand je donne cette oui. adresse, beaucoup ne se retrouvent pas. Les Tchadiens préfèrent beaucoup plus se référer au nom des bars, des écoles, peut-être le nom des dignitaires qui habitent le coin pour faire un plan.
Oui, c'est ça. Vous voulez dire que bon, c'est pas ancré dans les... Enfin, l'utilité n'est pas évidente, en fait, non plus. Ne saute pas à première vue pour les habitants.
Parce que, effectivement, quand vous posez cette question, ils disent que non, c'est un truc de blanc, c'est un truc d'européen, et si c'est pas encore ancré, encore dans les habitudes. Et cette situation perdure parce que l'opération d'adressage qui a été faite n'a pas bénéficié quand même d'une communication ou de sensibilisation de la population afin qu'elle puisse comprendre l'utilité de l'adressage de la ville.
Vous posez effectivement une très bonne question. Merci beaucoup. Qui veut réagir?
Alors, pour réagir par rapport à ce que l'auditeur vient de dire, vous savez... Moi, je prends mon cas. Je suis dans une activité où j'ai besoin d'adressage. La ville de Cotonou a bénéficié, par le biais de la France et d'autres organisations, d'un système d'adressage. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne dispose pas à Cotonou d'une carte d'adressage. Ça n'a jamais été édité, ça n'a jamais été fait. Et pas plus qu'une campagne de communication pour expliquer, non seulement à nous qui sommes les premiers utilisateurs, mais en plus à la population, comment fonctionne le système. Imaginez un instant, Emmanuel, vous venez à côté de nous, vous avez envie d'aller me voir à Top Chrono. Et quand vous dites, voilà, Top Chrono, c'est le numéro 445. Mais par quel moyen, par quel procédé, vous arriverez à retrouver le numéro 445 s'il n'a pas une carte? Donc, le tout n'est pas de mettre en place un système d'adressage. Encore faut-il l'accompagner par un certain nombre d'outils que, malheureusement, on n'a pas aujourd'hui. Voilà, tout à fait, c'est ça le problème.
L'exemple de Pointe-Noire est bon. Si vous avez un correspondant à Pointe-Noire, il pourra vous dire toute la campagne de communication.
On va l'avoir au téléphone dans quelques secondes. Guillaume Josse, vous souhaitez intervenir là sur la question, mais quelle utilité finalement? À quoi ça sert?
Alors ça sert à beaucoup de choses. Juste avant, je voulais parler d'une question qui revient régulièrement, qui est la question des numéros de rue. En fait, on donne des numéros parce qu'il s'avère qu'aucune ville n'est capable de fournir des centaines, voire des milliers de noms de rue. Parce qu'une fois qu'on a passé les quelques grands personnages, les noms de fleurs et les noms d'animaux, en fait, c'est très compliqué de donner des centaines de noms de rues.
Après... moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes, pas mal de personnalités en Afrique qui peuvent bénéficier, je dirais, de noms.
Sur la question quand même principale, Abdoulaye Abamako pose aussi cette question. Quelle est l'importance de nommer les rues, de numéroter les maisons? Nos peuples sont souvent illettrés, ne sauront donc pas se servir de l'adresse. C'est Abdoulaye qui le dit. Je trouve que cet argent devrait plutôt servir à l'assainissement des villes, ce qui éviterait de nombreuses maladies. Abdoulaye Nouakchott nous dit, l'adressage est un moyen, un signe de développement. Ça permet par exemple d'acheter sur Internet. Vous voyez bien que... Il y a ce questionnement.
Oui, mais on mélange tout. Incontestablement, il faut de l'assainissement. On ne dit pas ou l'assainissement ou l'adressage. Il ne peut pas y avoir du bon assainissement sans adressage, puisque les sociétés qui vont faire la collecte et qui se rémunèrent sans adressage, elles ne peuvent pas. Et deuxièmement, si les gens n'adhèrent pas à la politique d'adressage, c'est un, ils n'ont pas été informés, et deux, parce que les noms de rue ne correspondent pas à leur culture, à leur patrimoine et à l'expression de leur histoire.
Il n'y a pas d'appropriation.
Il n'y a pas d'appropriation. Et encore une fois, c'est un sujet éminemment politique.
Guillaume Josse.
Oui, sur à quoi l'utilité. Ça sert? Ça sert à beaucoup de choses. Alors, on parle toujours du repérage, qui est une question essentielle, sous réserve qu'on ait une carte.
Ça, on l'entend avec les galères des auditeurs.
C'est très simple. Mais ça sert aussi... au lien entre l'administration et le citoyen. Une adresse, ça sert pour mettre ses enfants à l'école, pour demander un permis de construire, pour payer ses impôts.
Oui, justement.
Ce qui est quand même une question fondamentale. Mais aussi le lien avec le cadastre, ça sert à énormément de choses. C'est un peu comme, comme un numéro vis-à-vis de l'administration.
C'est un état civil foncier.
Et je pense que vous avez raison de le dire, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une volonté politique pour qu'effectivement cet outil soit mis en place. Lorsque je prends, permettez-moi à chaque fois de prendre l'exemple de mon pays, c'est celui que je connais le plus. Lorsque je prends un pays comme le Bénin, quand je prends une ville comme Cotonou, il y a à peu près 3400 rues. Et à peu près une centaine ont été dénommées, ce qui veut dire que ça fait à peu près 3%. Alors, effectivement, on a mis en place un système de numérotation, ce qu'on appelle le système métrique que vous avez mis en place. Je comprends effectivement qu'on ait du mal à mettre en place une commission pour dénommer les rues. Mais autour de tout cela, tant qu'il n'y a pas une volonté politique, tant qu'il n'y a pas une implication de la population, et tant qu'il n'y a pas, ce qui est extrêmement important, une implication aussi des utilisateurs, je ne pense pas qu'on puisse aboutir à des résultats. Aujourd'hui, l'adressage est mis en place, mais est-ce que vraiment la population est au courant de ça? Est-ce que nous, qui sommes les premiers utilisateurs, est-ce qu'on est informés de ça? Rien n'a été fait par rapport à ça. Et je pense que la mise en place d'une carte telle que je l'avais souhaitée soit effectivement, un accompagnement.
Quel bénéfice pour la population si c'est juste pour lui faire payer des taxes foncières, évidemment, la question peut se poser. Alors, vous évoquiez l'exemple de la ville de Pointe-Noire. Je vous donne le numéro de téléphone pour que vous puissiez nous appeler, les voisins et les voisines. En attendant, nous contactons le Guy Roger Pambou, qui est le directeur du projet d'adressage pour la ville de Pointe-Noire. Je vous rappelle notre numéro, 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
On vous attend.
33 1 84 22 71 71.
Soyez les bienvenus.
Guy Roger Pambou, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes donc à Pointe-Noire, directeur du projet d'adressage pour la capitale économique du Congo, Brazza. Plus d'un million d'habitants, 1 200 000, 1 300 000 habitants, c'est ça?
Oui, 1 200 000 habitants.
Je vous lis deux messages d'auditeurs. Franck à Pointe-Noire nous dit « Chez nous, les taximens se retrouvent à Pointe-Noire grâce au GPS qui se trouve dans leur tête. » Ou encore Malolo, également à Pointe-Noire. « Les rues ici ont des noms, mais personne ne les connaît. On prend d'autres repères, des vendeurs de beignets, des pharmacies, des stations-service. » Que répondez-vous?
Ben, mais écoutez, madame, ce que je peux vous dire, c'est que l'adressage à Pointe-Noire a été mis en place, puisque nous avons, à partir d'un budget qui a été financé par l'IMF...
Vous répondez bien que l'adressage existe à Pointe-Noire, en tout cas. On va vous redonner la parole juste après le flash, mais pour cette réponse courte, vous nous confirmez bien qu'il existe un adressage à Pointe-Noire.
Il existe un adressage à Pointe-Noire.
Alors on y retrouve, on se retrouve juste après le flash dans 3 minutes sur RFI.
Écoute. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez. 7 milliards de voisins, vivre ou travailler sans adresse. Comment améliorer les plans d'adressage dans les villes africaines? On en discute avec vous, Pierre Baillet de l'Association internationale des maires francophones. Vous êtes extrêmement investi sur le problème de l'adressage en Afrique. Guillaume Joss du groupe 8, bureau d'études spécialisé dans le développement urbain et les techniques d'adressage. Régis Facia, acteur économique au Bénin, fondateur de Top Chrono, entreprise de transport et Poste Express. Et là, on devine effectivement pourquoi vous êtes confronté, vous aussi, en tant qu'acteur économique, au problème d'adressage. Une société qui se développe dans plusieurs pays d'Afrique, donc bien au-delà des frontières béninoises. Et Guy Roger Pambou est en ligne avec nous, directeur du projet d'adressage à Pointe-Noire, la capitale économique du Congo-Brazza. Guy Roger Pambou, donc vous nous confirmiez juste avant le flash, et je m'en excuse, nous avons été coupés par le flash, vous nous confirmiez bien, contrairement aux allégations de certains auditeurs, qu'il y a bien un plan d'adressage à Pointe-Noire. Ce plan d'adressage couvre combien en termes de superficie de la ville, sachant que la ville grossit de jour en jour?
Bien, aujourd'hui, merci, le 70% de la ville est couverte par l'adressage.
Ce qui veut dire que les auditeurs qui se plaignent et qui disent il n'y a pas d'adresse, ce sont des auditeurs qui sont plutôt à l'extérieur du centre-ville.
Oui, oui, ce sont ceux qui se trouvent en zone périphérique. Et comme je vous l'ai dit, la ville de Pointe-Noire, c'est une ville qui est en pleine mutation, qui connaît une forte mobilité. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui sont en zone périphérique ne sont pas encore... les parties ne sont pas encore adressées.
Oui. Et que répondez-vous à ceux qui disent y a peut-être des adresses, mais en tout cas, on ne les connaît pas?
Bon, mais il faut avouer qu'il y a un problème d'appropriation aussi. Hein. Il y a un problème d'appropriation parce qu'on ne pouvait pas, mettre en place un plan de communication sans avoir mis l'outil en place. Aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un problème de la population. Il faut que nous passions maintenant dans la campagne de communication.
Mais attendez, y a-t-il des panneaux visibles avec des noms de rue, des numéros sur les bâtiments?
Oui. Et il y a des plans qui ont été distribués aux taximans.
Oui. Donc, ils sont visibles pour la population, ces panneaux?
Les taximans ont été mobilisés.
Ils sont visibles pour la population. Mais maintenant, il faut pousser les populations à s'en approprier, à les utiliser.
Ouais. Alors, vous dites que vous faites de l'adressage participatif. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Oui, l'adressage participatif, c'est quoi? C'est que nous avons intégré dans notre projet les chefs de quartier, les maires des arrondissements, les chefs de quartier, les jeunes des quartiers, dans l'exécution et c'est la mise en place de l'adressage. C'est-à-dire que la ville ne l'a pas fait toute seule, mais nous avons impliqué les maires des arrondissements, les chefs de quartier et les jeunes des quartiers.
L'adressage, à l'échelle d'une ville comme Pointe-Noire, ça coûte combien un plan d'adressage?
Avouer que... Par le financement que nous avons eu, 500... Bon, mais ça dépend aussi de la superficie à couvrir. Hein.
Oui, bien sûr.
Il faut compter une moyenne de 700 000 euros par million d'habitants. C'est vraiment une...
Alors, lorsqu'on prend un pays comme le Bénin, pour ce que je sais, pour la ville de Cotonou, l'adressage a coûté à peu près 253 millions de francs CFA. Ça a été financé à 50% par la coopération française et le reste par la mairie. Alors, lorsqu'on voit ce montant, je dirais... Il y a tellement de choses en Afrique qui sont prioritaires que je me demande, pour un montant aussi faible, aussi infime, comment on n'y a pas pensé plus tôt. Tout à l'heure, vous avez dit une chose, Emmanuel. Vous avez dit que les pays africains sont en retard par rapport à l'adressage. Vous avez posé la question, mais moi, j'irai plus loin. Ils ne sont pas en retard, ils sont absents. C'est un processus dans lequel on est carrément absent.
Et parce qu'il n'y a pas une administration qui s'intéresse à ça. Notre premier projet d'adressage à l'IMF, c'était Niamey. On a réussi à Niamey, pourquoi? Parce qu'il y avait la volonté d'un maire et parce qu'il y avait un personnel local dans la mairie qui était prêt à partir. Et avant notre opération, la Banque mondiale n'avait pas réussi, et Guillaume Joss peut en témoigner, la Banque mondiale n'a pas réussi à mettre en œuvre l'adressage de Niamey parce qu'il n'avait pas la connaissance de ce milieu administratif de la ville.
Oui. Alors, c'est une opération assez technique. Un plan d'adressage, Guillaume Joss. Expliquez-nous comment ça marche.
Alors c'est très simple, la première chose c'est de faire une carte de la ville. Ces villes n'ont même pas de carte, hein. On dit que les villes africaines sont en retard. Alors ça n'est pas que l'apanage de l'Afrique, il y a au Moyen-Orient ou en Asie beaucoup de villes qui n'ont pas de carte à jour. Donc la première chose c'est de recenser toutes les rues, déjà, existantes. Alors dans les périphéries c'est souvent compliqué parce que est-ce que la rue qui est tracée est une vraie rue? Est-ce qu'elle va rester comme ça? Est-ce qu'elle va changer? Mais on va dire que dans le tissu existant, un tissu qui est là pour longtemps, il faut repérer toutes les rues, les dessiner tout simplement. Et après, avec, alors, comme le disait Guy-Roger Pambou, hein, avec les élus, avec les chefs de quartier, avec des représentants des entreprises, par exemple, choisir la manière dont on va découper la ville, en quartier ou en arrondissement ou en commune, etc., pour que les gens puissent se repérer. Et après, on va en profiter, entre guillemets, pour, lorsqu'on va aller donner l'adresse à la personne, c'est-à-dire pour ça, il faut mesurer la distance entre le début de la rue et son adresse.
C'est ça, donc si vous êtes à 100 mètres du début de la rue...
Vous aurez le numéro 100 si vous êtes à droite et le numéro 101 si vous êtes à gauche, par exemple. Et on va profiter du fait de donner l'adresse pour savoir ce qu'il y a derrière la porte. Est-ce que c'est un ménage? Est-ce que c'est une école? Est-ce que c'est une pharmacie? Et ce qui permet quand même dans l'opération d'adressage de recenser tous les équipements publics, mais aussi les grands équipements privés, mais aussi les entreprises, etc. Je reviens juste sur ce
quand
qui
on
était
va
dit
chez
sur
les habitants ou chez des travailleurs qui travaillent là, à qui on pousse la porte, on donne l'adresse, quelle est la réaction en général?
Alors la réaction, c'est pour ça que la communication elle est aussi importante avant l'enquête, parce qu'effectivement les gens savent très bien que derrière l'adressage il y a aussi des questions de fiscalité et c'est bien normal.
Voire de déguerpissement, de problèmes fonciers, etc.
En général, le fait de mettre une adresse empêche le déguerpissement. C'est quand même une garantie de citoyenneté, on va dire. Juste revenir sur le coût et sur ce qui a été dit. D'abord, 1 km de voirie en ville, ça coûte 1 million d'euros. Donc, est-ce que chaque ville d'un million d'habitants... Non, en Afrique. Est-ce que chaque ville d'un million d'habitants en Afrique ne peut pas se passer d'un kilomètre de voirie pour mettre en place un adressage? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, le vrai coût à supporter par les villes, c'est le coût de l'administration. Les villes changent, les gens déménagent, les pharmacies ferment, les commerces ouvrent. Et c'est là où le coût n'est pas pris en charge par les opérations. C'est là où il faut recruter des gens, continuer les enquêtes, mettre à jour. Et c'est là où on a des difficultés aujourd'hui.
Alors, moi, il y a une chose qui me gêne dans la discussion. Lorsque j'écoute les différentes personnes parler, ils disent souvent que c'est la volonté du maire qui déterminera le fait de mettre en place l'adressage. Mais je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, l'adressage s'impose à nous. C'est une obligation à laquelle aujourd'hui on est tenu de nous conformer. Le monde bouge aujourd'hui. Pourquoi est-ce que dans nos pays africains, on ne peut pas faire du e-commerce? Parce que justement, le système d'adressage ne permet pas de livrer à temps. Moi, je suis dans un métier qu'on appelle le door-to-door, c'est-à-dire que je dois livrer de domicile à domicile. Mon métier est extrêmement difficile en raison du fait que je ne peux pas localiser les différents endroits pour aller livrer. Aujourd'hui, quand tu vas aux États-Unis, quand tu vas dans n'importe quel pays du monde, avec ton téléphone portable, tu contactes Uber pour prendre ton taxi. Le principe même d'Uberisation n'est pas adapté à l'Afrique, justement en raison de tout cela. Et par rapport à la difficulté d'adressage, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui une volonté d'un maire. Il faut que cela s'impose à la plupart des pays africains.
Vous voulez dire
parce
aux citoyens,
que l'Afrique...
finalement.
Comment ?
Vous voulez dire aux citoyens.
Bien sûr, parce qu'on ne peut pas raisonner de telle sorte que l'Afrique soit en dehors du monde entier.
Est-ce que les nouvelles technologies, la géolocalisation notamment, pourraient permettre de court-circuiter, de faire plus vite des plans d'adressage, de court-circuiter l'étape des panneaux, par exemple,
non,
comme
non,
la téléphonie mobile.
Non, ça se rajoute. En fait, comme je disais, on n'a pas trouvé mieux qu'un panneau à un coin de rue pour savoir dans quelle rue on est et un numéro sur la porte pour savoir quelle est son adresse.
Mais qu'est-ce que téléphonie mobile peut apporter?
Alors, elle apporte plusieurs choses. Par exemple, le fait de mettre d'avoir sur son portable le plan de la ville, le plan d'adressage, ça, c'est une vraie révolution et c'est assez facile à faire. On pourrait imaginer qu'à Pointe-Noire, prochainement, chaque Congolais à Pointe-Noire puisse avoir son plan sur son smartphone. On peut ajouter à l'adresse les coordonnées GPS, toutes sortes de coordonnées, c'est possible. Néanmoins, ça reste quand même la manière la plus simple et la plus universelle et qui dure dans le temps de
Juste un petit message d'un auditeur de Pointe-Noire, justement, et Guy-Roger Pambou, vous êtes le directeur du projet d'adressage à Pointe-Noire, vous allez répondre. Un auditeur qui nous dit « Le projet d'adressage existe, comme l'a dit donc l'intervenant, mais il n'y a pas de numérotation des logements. Le projet n'est pas fini, ça dure depuis 3 ans. On n'a toujours pas d'adresse exacte. » Guy-Roger Pambou.
Oui, je vous écoute. C'est vrai. Le projet n'est pas toujours fini, mais actuellement, nous sommes en train de... Le projet est en train de... Nous rentrons dans la phase de pérennisation. C'est-à-dire, vous avez parfois des endroits où, quand vous avez fait l'adressage, vous avez des endroits qui n'étaient pas bâtis.
Oui.
Alors, les personnes qui arrivent et qui construisent ont besoin d'avoir un numéro. Mais si le citoyen lambda ne se déplace pas pour venir solliciter le numéro de sa parcelle, c'est bien évident qu'il ne puisse pas avoir un numéro, numéro de parcelle.
Donc c'est ce qui expliquerait les lenteurs. Un plan d'adressage classique qui se déroule bien, ça doit durer combien de temps, Guillaume Joss?
Moi, trois ans, ça ne me paraît pas scandaleux. Hein.
C'est pas scandaleux.
C'est rien du tout. C'est, rien du tout.
C'est normal.
L'adressage de New York ou de Paris, il a fallu des siècles. Et je veux dire qu'on voudrait que l'Afrique, en un claquement de doigts, arrive au même... je parle de l'adressage ou de l'assainissement lourd. Hein. Il faut du temps. Il faut du temps pour se l'approprier. Et je reviens, et je ne suis pas d'accord, je suis désolé. C'est un projet véritablement politique. S'il n'y a pas la volonté de maintenir ça, d'avoir un service qui suit... Je vais prendre un exemple d'une ville que je ne citerai pas de nom, qui est en conflit culturel entre deux religions fortes. Le maire, d'un trait de plume, sans que je le sache, a supprimé toutes les mosquées du plan. Il a fallu mettre tous les plans à la poubelle et refaire un nouveau tirage pour que les mosquées y figurent.
Vous ne parlez pas de Bangui, par exemple?
Je ne suis pas là pour stigmatiser des villes. Et il a fallu, donc c'est véritablement un problème politique. Et de même, l'adressage d'un quartier de cette ville à laquelle je pense, eh bien, pose des difficultés, mais nous y arrivons petit à petit par cette force, par cette volonté politique.
Donc, l'adressage, un acte citoyen, une volonté politique.
Absolument.
Avec des retombées économiques.
Avec
des
retombées,
forcément.
Mais en bout de course.
En tant que chef d'entreprise, moi je ne vois qu'une chose. C'est d'abord les retombées économiques que cela pourrait avoir. Vous savez, aujourd'hui, lorsque je prends la plupart de nos pays qui n'ont pas de pétrole comme ressource, qui ont ce qu'on appelle des ressources essentiellement, je dirais, fiscales, le principe d'adressage, non seulement ça permet de collecter des impôts aux locaux, mais en plus, ça permet, dans l'activité économique, de la rendre encore plus, on va dire, beaucoup plus active, de beaucoup plus pérenne. Et par rapport à ça, c'est un outil de développement, l'adressage. Et il faut, et c'est là-dessus que je ne suis pas d'accord, lorsqu'on dit que c'est une volonté du maire, il faut que ça aille au-delà même de la volonté du maire et que cela s'impose.
Sur les recettes fiscales, Cotonou, qui a refait son plan d'adressage, ou fait, enfin je ne sais pas le mot qu'il faut employer, il y a trois ans maintenant, c'était
en 2013. Oui.
Est-ce qu'on sait de combien ça a augmenté les recettes fiscales et en moyenne dans les villes africaines où
écoutez,
vous supervisez les plans d'adressage?
On a fait 12 ou 13 villes, on a adressé 12 ou 13 villes. Il y a eu une évolution de 20-25% des recettes fiscales.
Donc c'est très rentable par rapport à ce que coûte un plan d'adressage.
Absolument.
Ben, forcément, non seulement c'est rentable pour la collectivité locale, c'est rentable pour le pays et c'est aussi rentable pour les entreprises, y compris même pour les citoyens. Vous savez, même en termes de sécurité, aujourd'hui, on se plaint de difficultés que nous avons par rapport à la sécurité. Le simple fait même que chaque citoyen ait une adresse, ça permet de localiser en cas de difficulté. Donc, dans cette histoire, tout le monde est gagnant, aussi bien les entreprises que la population.
Sauf que les entreprises ne participent pas au financement de l'adressage.
Encore heureux.
Alors, je ne suis pas encore heureux. Un mot sur le financement. Beaucoup de bailleurs de fonds, en général, entrent en jeu.
Nous, on a nos fonds propres, et puis l'Union européenne ou l'AFD...
Sous forme de fonds, de prêts, ça dépend des montages financiers.
Pas de prêts. Enfin, nous, c'est du don. Hein.
Nous avons en ligne Fataou qui nous appelle de Parakou, une
autre ville
du Bénin, au 33-1-84-22-71-71. Bonjour Fataou.
Oui, bonjour Emmanuel.
Alors vous souhaitez vous plaindre, je crois, sur le fait que vos dirigeants ne vous communiquent pas suffisamment vos adresses aux uns et aux autres.
Oui, merci beaucoup Emmanuel. Et moi, je réside à Parakou, au Bénin. Et j'ai constaté dans ma ville, il n'y a pas une ou deux rues qui portent des noms. Toutes les autres rues ne portent aucun nom.
Oui.
Et par ailleurs, j'ai aussi constaté que des habitations, des boutiques, ateliers et autres centres d'affaires ont bel et bien de numéros, mais que seule la mairie, les services des impôts et taxes diverses connaissent.
Ah bon?
Oui.
Alors
pourquoi je le dis, c'est parce que j'ai constaté que ces numéros ne figurent que sur des fiches d'imposition. Parce qu'à chaque fois, on amène des impôts, sur ces fiches que je constate, il y a des numéros des habitations et autres. Mais ceci n'est pas communiqué à la population, donc la population ignore
le numéro matricule de chaque des habitations et autres centres d'affaires.
Mais vous soupçonnez que ce soit une volonté politique de cacher les adresses des habitants et de les conserver uniquement pour lever de l'impôt, c'est ce que vous voulez dire?
Voilà, c'est l'impression que nous dirigeons.
Je ne pense pas.
Non, mais c'est intéressant le point de vue de Fatou. Merci en tout cas de nous avoir appelé, parce que ça témoigne sûrement
d'un manque
de confiance de la part des habitants.
Absolument, c'est bien la preuve que les habitants ne sont pas impliqués dans le processus et qu'il n'y a pas eu de la communication.
Et surtout, n'ont pas vraiment confiance.
Exactement.
À quoi ça va servir? Est-ce que c'est Guillaume Joss? On dit aussi beaucoup que sur des enquêtes de terrain au moment des recensements, il y a des enquêteurs qui se font littéralement chassé dans certaines villes au moment où on cartographie tout ça.
Oui, c'est cette question de communication et ce que vient de dire l'auditeur est un grand classique et on comprend. Si effectivement l'objet de l'adressage c'est juste de payer plus d'impôts, je peux comprendre que les citoyens soient moyennement motivés. En revanche, il faut expliquer, mais surtout il faut faire. C'est-à-dire il faut aussi que ça leur permette peut-être permettre aux villes de mieux planifier le nombre de classes dans les écoles parce qu'on saura combien il y a d'enfants à telle adresse.
Les pompiers,
la police, les permis de construire. Si vous appelez un médecin, vous lui dites je suis à telle adresse, c'est quand même plus facile que de dire je suis après la pharmacie. Manque de chance, la pharmacie a déménagé, donc...
En plus, c'est vrai quand on donne son adresse, on se situe toujours à côté de quelqu'un d'autre, jamais soi-même finalement. Mais est-ce qu'un auditeur qui serait fier d'avoir enfin une adresse pourrait nous téléphoner au 33 84 22 71 71, ne serait-ce que pour qu'on comprenne vraiment si pour certains ça a changé leur vie?
Ce que moi j'ai constaté honnêtement, depuis qu'on a mis en place à Cotonou le système d'adressage, dans mon métier, on tient des statistiques. Il y a ce qu'on appelle les anomalies liées à des livraisons qui n'ont pas été faites. On s'est rendu compte quand même qu'en dépit de tout, ces anomalies ont quand même diminué de près de 22%. Ce qui veut dire que, bien qu'il n'y ait pas eu de la communication autour de ce principe d'adressage, ça a quand même progressivement facilité notre métier. Imaginez un instant qu'on puisse l'étendre aux périphéries, aux agglomérations de la ville de Cotonou. Ça permettra davantage de mieux travailler et de créer encore plus d'emplois et de richesses. Donc, dans cette affaire-là, tout le monde est gagnant.
Ah bah justement, un Congolais nous appelle de Bruxelles, mais c'est un Congolais de RDC. Bonjour, Robert.
Oui, bonjour, Emmanuel.
Vous souhaitez intervenir, alors pour ou contre l'adressage en Afrique? Est-ce que vous y voyez un bénéfice? Certains auditeurs ne cachaient pas leur perplexité.
Il n'y a pas de problème. Mais je suis un peu étonné par la discussion que nous avons là. Il faut de la volonté politique, il faut, je ne sais pas, tout un tas de choses, des outils. Les outils existent déjà. Moi, je suis né au siècle dernier. Je suis né à Kinshasa. On est au 21e, je suis né au 20e siècle. Je suis né à Kinshasa et j'ai une adresse connue. Moi, j'habite rue Baraka, numéro 155. Quand je demande à un chauffeur de taxi de me conduire à l'aéroport, quand je descends de l'aéroport vers chez moi, bon, ils n'ont pas de GPS, tout ce qu'il va me demander, c'est dans quel quartier. Je lui dis le quartier, puisqu'il n'a pas de GPS, et je lui dis c'est tout près de Zulkabar. Et il va aller dans la rue Baraka, numéro 155, qui est mon adresse.
Vous ne lui avez pas donné votre adresse?
Et si je lui dis d'aller, je la donne, il n'y a pas de problème. Et si je dis d'aller chez mon frère, il va m'amener chez mon frère sur la rue Kindou. Il y a des adresses partout. Et du temps colonial, tout était cartographié.
Il n'y a pas eu de recensement à Kin depuis Mobutu, ceci dit.
Les nouveaux quartiers, les quartiers créés officiellement sont cartographié, il y a des adresses.
Mais alors, où voulez-vous en venir, finalement, Robert?
Je voulais en venir pour dire, moi, ça m'avait étonné. Je suis arrivé, j'ai fait toute ma carrière en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord, au Maroc. Quand on m'invitait quelque part, on me faisait comprendre, pour l'Afrique de l'Ouest, à Abidjan, on me faisait comprendre, mais je viendrai te chercher. Moi, je dis, non, mais je prendrai un taxi, ne te déplace pas. Non, tu ne trouveras pas. Je dis, mais donne-moi ton adresse. Et il n'y avait pas d'adresse, c'est après que j'ai compris. Et je voulais seulement dire, il n'y a pas question de volonté politique. Les outils sont là. Google Maps, moi, quand je vais sur Google Maps, je vois...
Donc, vous voulez dire, les outils sont là, ça, on a bien compris. On a jamais dit qu'il y avait des problèmes technologiques. Guillaume Joss a un bureau d'études spécialisé dans l'adressage. Vous avez expliqué que vous avez tous les outils pour mettre en place l'adressage. C'est l'étape d'après, ensuite. Communiquer, que les habitants s'approprient les adresses, etc. Donc, vous avez l'air de nous dire, c'est très simple. Mais non, ça n'est pas si simple que cela.
Mais moi, du temps moi, je suis né du temps colonial.
Oui, on a bien compris, Robert, ça.
Et j'avais déjà une adresse à Kinshasa, à Brazzaville. Je connais aussi la ville.
Oui, mais il y avait combien d'habitants à Kinshasa à l'époque?
Il y avait combien d'habitants
oui,
à Kinshasa?
Oui, on en a largement sûrement plus de 15 millions aujourd'hui, on ne sait pas très
mais
bien.
Maintenant, même à Kinshasa, vous regardez, toutes les rues ont un nom. Oui. Même sous des rues, même après mon
du centre-ville,
toutes les rues, sauf les bidonvilles, bien sûr. Hein.
Bah oui, mais
sauf que les bidonvilles font partie des villes aussi.
Ils sont majoritaires maintenant.
Mais oui, c'est ça le problème.
Mais les bidonvilles.
Bon, merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelé. Je vous remercie infiniment, Robert, de nous avoir fait partager ces interrogations, voire peut-être un petit énervement. Une question de Saï à Dakar qui nous dit : moi, je ne comprends pas comment les noms de rues sont donnés. Quels sont les critères ?
Ah, ça c'est.
Ça c'est une vraie question.
Ça c'est une vraie question qui peut paraître un peu. Anecdotique, mais qui est quand même une vraie question sociale, plus que politique. Vraiment, il n'y a aucun frein, pour le coup, à donner. On pourrait trouver des millions de noms. Sauf que l'expérience montre qu'aucune ville n'est capable de donner...
Non, s'il y a des comités.
Il y a des comités, mais c'est assez lent, en général.
Mais oui, pourquoi c'est long? Parce qu'ils veulent s'approprier.
Absolument.
Je veux dire que, regardez, à Paris, encore, les noms changent.
Et c'est bien normal, en
même temps. Oui, c'est normal. La dernière révolution qu'on a connue dans l'espace francophone, c'est la révolution tunisienne. On a changé les rues du 7 novembre en rue du 14 janvier. Ça veut dire qu'on s'approprie ça. Et donc, s'il n'y a pas d'appropriation, s'il n'y a pas de réflexion, il ne peut pas. Un bon adressage.
Non, juste, il faut quand même rappeler que les habitants de New York vivent avec des numéros depuis 250 ans, ils ne s'en portent pas plus mal. Et en fait, c'est beaucoup plus facile pour se repérer.
Mais non seulement c'est plus facile pour se repérer, pour ce que j'ai compris, mais en plus, quand on prend des villes comme les nôtres qui se développent, eh bien, c'est d'autant plus facile de continuer à assurer le développement de ces villes.
Guy Roger Pombou, vous êtes toujours en ligne avec nous à Pointe-Noire. Ce sont des noms de rues, des numéros. Comment vous fonctionnez? Est-ce qu'il y a des débats autour?
À Pointe-Noire, ce sont des noms des rues.
Avec une
mais je peux vous avouer que ce n'est pas un travail facile.
Mais oui. Donc avec une commission...
C'est une contrainte. C'est une contrainte du bureau exécutif du conseil. Il fallait dénommer toutes les voies.
Oui, donc il faut effectivement mettre d'accord il faut mettre d'accord tout le monde sur les noms de rues. Alors ça...
oui. Et pour cela, ce que nous avons... mis en place au niveau de Pointe-Noire, on a mis en place une commission de toponymie. Une commission de toponymie composée des élus, des sages, des sachants, pour pouvoir. Et on a mis en place, on a défini des critères pour éviter que les choses ne partent un peu partout, pour encadrer un peu cette activité-là. Nous avons mis en place un critère de toponymie et c'est le canevas dans lequel la commission devait travailler.
Oui, Pierre Baillet.
Madame, oui, ne comparons pas l'Occident avec l'Afrique. Les rues de New York n'ont rien à voir avec les rues d'Alger, de Tunis ou de Bamako. Les rues de New York sont des angles droits, des parallèles et des perpendiculaires. Effectivement, on peut facilement mettre des numéros à Tunis ou dans la Casbah, ça sera impossible à gérer. Il faut des noms pour s'y retrouver.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui, ailleurs que sur le continent africain, des modèles inspirants dans des villes compliquées, avec un maillage très serré, où on a réussi des plans d'adressage, où les habitants se sont appropriés leurs adresses, Guillaume Josse.
Oh bah, y en a plein. Oui. Enfin, toutes les villes dans le monde sont potentiellement adressables.
Non, mais des villes du Sud, avec des quartiers informels.
Les médinas. Avec leur nom de commerce, il y a les rues il y a la rue des Lombards, la rue des Juifs, ou la rue des Tisserands, la rue des Potiers.
Non, mais plus largement, au-delà des noms des villes, des noms des rues, mais par exemple, les quartiers informels dans les villes indiennes, les bidonvilles, etc., il y a eu des opérations d'adressage qui ont dépassé les freins avec la population.
Oui, il y en a, mais les bidonvilles, c'est un exemple, extrêmement politique. Donner une adresse, c'est donner le droit d'habiter. Et ce n'est pas une question technique, là encore. C'est vraiment une question très, très politique.
On est dans le frein, là.
Mais il faut rappeler que c'est quand même pas le déficit d'adressage n'est pas propre à l'Afrique. Dans les villes du Proche-Orient, dans les villes secondaires asiatiques, il y a en général très peu d'adressage, notamment dans toutes les périphéries, dans toutes les zones
Une auditrice nous écrivait d'Arabie Saoudite, de Riyad, nous disait que depuis l'adressage, on ne se repérait plus qu'à la géolocalisation sur les téléphones portables et que ça avait énormément développé évidemment le commerce sur Internet. On arrive au terme de cette émission. Pierre Baillet, les défis futurs pour l'adressage des villes africaines, ça va être les villes secondaires, ça va être quoi le travailler ensemble.
Le grand défi, c'est les projets que nous avons mis en œuvre, qu'ils durent, qu'ils s'inscrivent dans la durée. Il est sûr qu'il faudra étendre aux villes secondaires avec toute la volonté que j'ai exprimée, mais il faut que là où nous sommes intervenus, il faut que ces projets soient durables. Si ces projets ne sont pas durables, ça sera un mauvais exemple pour les villes secondaires.
Et avec des habitants qui disent déjà c'est trop long, on ne voit pas les effets positifs.
Madame, ça ne peut pas se faire en moins de 2 ou 3 ans. C'est impossible, techniquement impossible.
Les élus des collectivités locales sont motivés aujourd'hui,
globalement. On les forme et on essaye de les motiver.
Régis Facia,
vous savez, pour vous, chef d'entreprise. La plupart des pays africains ont comme priorité la santé, l'éducation. Ça me paraît normal, je comprends. Mais comment voulez-vous développer l'éducation d'un pays si les populations n'ont pas d'adresse? Comment voulez-vous élargir l'assiette fiscale d'un pays s'il n'y a pas un système d'adressage? La notion même d'adressage aujourd'hui s'impose à tous les pays africains parce qu'on n'est pas en marge du globe terrestre. Il faut absolument qu'on s'intègre dans la mondialisation et qu'on comprenne qu'aujourd'hui, indépendamment du fait que nous soyons des pays pauvres, des pays développé, eh bien, il faut que le système d'adressage puisse être véritablement un acquis qui nous permettra de nous développer davantage.
Guillaume Joss.
Oui, la question, c'est la question du partage de la donnée, de l'utilisation d'adresses. Mettre une adresse, c'est une chose, l'utiliser, c'est un peu plus compliqué.
Merci à vous tous. Guy-Roger Pambeau, qui était également en ligne avec nous, directeur du projet d'adressage à Pointe-Noire. Merci à vous, Pierre Baillet. Vous serez bientôt à Beyrouth pour le Forum des maires francophones. Guillaume Joss de Groupe 8 et Régis Facia de Top Chrono. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain, 7 milliards de voisins, l'école face aux risques terroristes. Merci de votre fidélité. Autour de la